Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Or, vous êtes célibataire et ça m'a toujours étonné.
Pas moi, parce que j'étais bien décidé dès le début à le rester. Et je crois savoir pourquoi, car je me suis moi aussi très longtemps posé la question. Il n'y a réellement pas de raison.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes comme moi sensible à la séduction des séries télévisées américaines qui ont pris récemment sur nos petits écrans une place grandissante. Mais si vous l'êtes, vous avez sûrement été frappé par le contraste entre deux des plus réussis et des plus célèbres, Desperate Housewives et Sex and the City. L'opposition est frappante en effet entre d'un côté le malaise des femmes mariées de la moyenne bourgeoisie provinciale, cherchant leur voie entre l'ennui de la routine et l'extravagance de la nouveauté, et de l'autre, le désarroi, parfois joyeux et souvent chagrin, des belles jeunes femmes célibataires de la grande ville, rêvant du grand amour et du partenaire idéal, mais sans vouloir jamais renoncer à leur pleine liberté. C'est sur ce fond de tableau que l'envie m'est venue ce matin, à l'occasion de la réédition d'un livre de Jean-Claude Bologne consacré précisément à l'histoire du célibat et des célibataires, de traiter de ce sujet dans la longue durée, en braquant notamment l'attention sur le 19e siècle. Célibataire envié ou célibataire maudit? C'est en ce temps-là que l'ambivalence de leur situation sous le regard des autres s'est manifestée, me semble-t-il, avec le plus d'éclat. Jean-Claude Bologne, philologue de formation et historien par choix, mon invité ce matin, a publié d'autre part une histoire du mariage en Occident, nous confirmant, s'il en était besoin, et sans surprise, que ces deux thèmes sont intimement liés, sans pour autant qu'ils se confondent. Ce que nous allons, je l'espère, assez clairement démontrer.
C'est si bon d'être célibataire, c'est si bon de garder sa gaieté, de toujours diriger sa galère, en virant avec le vent la liberté.
Tu dis ça, t'as peut-être raison, parce que tu couches sous les ponts, mais tout de même c'est merveilleux de vivre à deux. Le bonheur dans le foyer,
c'est du flan, faut pas se marier. Qu'on soit richard ou clochard, tu peux m'en croire. Car c'est si bon d'être célibataire.
C'est peut-être toi qui es dans la vérité. Quand on est passé devant le maire, c'est fini, il est trop tard pour regretter.
C'est la loi, écoute-moi. Si tu me crois, tu verras que ça ira.
T'as pas tort, soyons forts. C'est d'accord, après tout, on s'en fout. C'est si bon d'être célibataire.
De sortir quand il faudrait rentrer.
De promener la fille sans la belle-mère.
Et de ne pas faire la vaisselle après le dîner.
D'abord, c'est bon de savoir qu'on ne sera jamais veuf.
Qu'on pourra être tous les soirs plein comme un œuf.
Faire des taches sur ses habits.
Et fumer la pipe au lit.
En rêvant l'œil égrillard à une star.
Car c'est si bon d'être célibataire. En pensant que dans la société, on pourra toujours lever son verre. En vivant à la santé, la liberté.
Fais pas ci, fais pas ça. Viens ici, reviens là, va là-bas.
Ce ne sera pas pour nous.
Puisque nous, ces trucs-là, on s'en fout.
C'est si bon d'être célibataire. C'est si bon de garder sa gaieté. De toujours diriger sa galère. En vivant à
avec le vent de la liberté.
C'était Bourvil et Georges Guettari qui chantaient Duo de célibataires. C'est un extrait de l'opérette Pacifico, une opérette de Jo Moutet avec des paroles de Camille François qui remonte à 1958. Jean-Claude Bologne, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi cette chanson, j'ai choisi cet air parce qu'il me paraît introduire tout de suite sur le versant optimiste du célibat, c'est-à-dire la liberté. Comme nous verrons l'autre versant aussi, il m'a semblé que cette tonalité pour commencer était bienvenue.
Tout à fait, d'autant que les mêmes images sont employées pour les deux versants. Cette histoire de la tâche sur le veston. D'un côté, le versant optimiste du célibat, on a la liberté de tout faire, y compris ce qui n'est pas bien.
Se salir.
Et de l'autre côté, il y a le versant négatif, il n'y a personne pour enlever la tâche sur le veston. Et c'est un très vieux thème. Les célibataires de Monterland, le vieil Élie a toujours une tache d'œuf sur son gilet.
Élie de Coëtquidan.
Voilà. Et effectivement, c'est peut-être ce qui a le plus changé dans l'image du célibat. Ça fait extrêmement daté, cette tâche sur le veston.
Ah, encore, je vous réserve une autre tâche tout à l'heure, vous verrez, dans un autre document.
Je m'en réjouis. Mais aujourd'hui,
je me réjouis que vous réjouissiez cette tâche.
On a l'impression que le célibataire est plutôt celui qui doit toujours être très propre sur lui, qui est en avance d'une mode sur les autres. Et on a plutôt l'image du mari pantouflard. Alors qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, on avait l'image du célibataire pantouflard parce que personne ne veillait sur lui. Et ce retournement d'image est très caractéristique.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir de plus près en observant que le tournant du 18e au 19e siècle, j'ai choisi de parler surtout du 19e siècle, je le disais, est vraiment un moment important parce qu'on constate par exemple que dans le Code civil de 1804, le mot de célibat n'est attesté qu'une seule fois. Dans la Bible, il n'existe pas.
Dans la Bible, il n'existe pas. Le célibat en soi n'existe pas dans toute une mentalité. Il ne se définit que par rapport au mariage.
En creux, en quelque sorte.
En creux. Effectivement, ça pose tout de suite un problème d'objet, d'étude. Lorsqu'on parle de célibat et de célibataire, aujourd'hui, on pense plutôt à celui qui vit seul ou à celle qui vit seule.
Avec la notion de liberté.
Soit de liberté, soit de celui qui n'a pas réussi à trouver l'âme sœur. Il y a toujours les deux versants.
Liberté ou solitude. Alors qu'auparavant, c'était guère que des images négatives. Et célibataire, celui qui ne veut pas ou qui ne peut pas se marier, quelque chose comme un incivique ou un impuissant.
Ça, c'est l'image originelle, je dirais. Le mariage étant tout à fait normal, celui qui reste célibataire, c'est qu'il n'a pas pu se marier, donc qu'il a une tare quelque part, ou qu'il n'est pas beau, ou qu'il n'est pas riche, parce qu'il y a du célibat imposé par pauvreté, soit qu'il n'a pas voulu. Alors là, c'est l'image de l'égoïste, du dandy, de celui qui a refusé de faire son devoir civique. Et ce sont encore les deux volets, le volet malheureux, celui qui ne peut pas, et le volet du gay célibataire, celui qui pourrait, mais qui ne voudrait pas, parce qu'il veut passer sa vie à autre chose.
Je voudrais introduire tout de suite une distinction. Il y a les rats des villes et les rats des champs. Il y a les célibataires des champs et les célibataires des villes. Au XIXe siècle, on voit clairement une coloration différente selon qu'on parle de la campagne ou de la ville. Parlons de la campagne pour commencer.
Parlons de la campagne pour commencer. Effectivement, dans la campagne, le mariage est resté d'usage. Le célibat est d'autant plus choquant. Un moraliste du XIXe siècle disait d'ailleurs que les deux fondements du foyer sont la femme et le bœuf.
Qui dit ça ?
Un certain Molin.
Célébrons-le, celui-là.
Célébrons-le. Et effectivement, le célibataire ne passe plus inaperçu. Il est d'autant plus choquant dans les campagnes. Or, le célibat dans les campagnes existe depuis longtemps. On était surpris de retrouver dans les politiques du 9e siècle un certain nombre d'hommes et de femmes qui vivent seuls sur une manse. Et donc, il est probable qu'ils soient célibataires ou veufs. Ça n'apparaît pas tout à coup au 19e siècle. Au 19e siècle, au moment où le cliché du célibat égoïste se répand essentiellement dans le célibat urbain, le célibat des campagnes pose problème parce qu'on ne peut pas accuser le célibataire des campagnes d'être égoïste.
Je vais vous faire écouter, pour illustrer ce propos, une archive qui remonte à 1968 et qui concerne la kermesse des célibataires dans les Basses-Pyrénées, avec le témoignage d'un paysan qui vient de l'Aveyron et qui espère trouver là l'âme sœur.
Un candidat au mariage, c'est un vacancier. Il ne va pas préciser son nom parce qu'il réserve son anonymat, mais il est originaire, je crois bien, de la région de l'Aveyron. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu dans la région d'Esparros ?
Je suis venu de l'Aveyron parce que l'année dernière, je n'ai pas pu faire acte de candidature étant arrivé trop tard. On a parlé un peu dans tout le pays de cette foire, de cette kermesse de célibataire. Et je viens chercher la monsieur, mais je pense, vous savez que les places seront chères parce que 3000 candidats pour 900 candidates, il va falloir se la gagner.
Mais dans l'Aveyron, vous n'en trouvez pas?
Et dans l'Aveyron, vous savez, nous sommes dans un pays un peu reculé là-bas, et alors l'hiver c'est un peu dur. Remarquez que j'ai une belle ferme avec tout ce qu'il faut, mais vous savez, je ne sais pas, les jeunes préfèrent la ville maintenant. Remarquez que je suis de bonne allure, j'ai de belles moustaches encore, mais enfin, je ne sais pas, j'espère que cette année je vais trouver la ma soeur.
Vous comptez rester même plusieurs jours alors?
Ah, mais ça dépend. Si je trouve la ma soeur, peut-être que je resterai à Esparos.
Belle ferme, belle moustache, ça ne me paraît pas toujours suffire, Jean-Claude Bologne.
Voilà, c'est effectivement le problème qui se pose dès le départ. Il y a des régions plus célibataires que d'autres, qui sont les régions déshéritées ou reculées. Effectivement, dans le centre de la France, en Bretagne, dans les Pyrénées, il y a eu des problèmes de célibat que l'on ne rencontre pas dans la Beauce, en Bourgogne, dans des régions plus riches. Je parle là du 19e siècle. Effectivement, il y a d'autres modèles qui se sont mis en place. Je pense notamment au modèle de la famille souche que Le Play avait étudié il y a un siècle.
Frédéric Le Play, le grand ancêtre des sociologues.
De la sociologie, oui. Qui avait étudié dans les Pyrénées ce modèle où l'héritage revenait à l'aîné, à charge pour lui d'entretenir, de nourrir les célibataires de la famille qui gardaient la possession de leur petite tête de troupeau à l'intérieur du grand troupeau. Et c'est un modèle tout à fait original entre le modèle de la famille patriarcale et le modèle de la famille éclatée. C'est un modèle, ça, qui est valable pour le 19e siècle, qui n'est plus du tout valable pour le 20e siècle et pour la fin du 20e siècle. On s'est rendu compte, par exemple, qu'avec la dévaluation de l'argent, le célibataire ne pouvait plus avoir un héritage correspondant aux terres que l'on laissait à l'aîné, et donc allait de plus en plus vers la ville. Et le célibat des campagnes, depuis une cinquantaine d'années, est aussi lié au célibat de petits propriétaires, d'aînés petits propriétaires, parce que les filles ne viennent pas de la ville pour s'installer à la campagne. Donc il y a des visages très différents du célibat des campagnes, selon les lieux et selon les époques.
Je crois que c'est bien d'introduire cette notion économique. Nous parlions jusqu'ici de psychologie des célibataires, mais cette dimension de l'argent, cette dimension de l'héritage est également fondamentale.
Elle est beaucoup plus sensible dans les campagnes qu'à la ville, parce qu'effectivement, dans la campagne, on vit beaucoup plus difficilement seul. C'est ce que disait le fermier aux belles moustaches. Les soirées d'hiver, c'est très dur. À son époque, aujourd'hui, il y a la télévision, il y a Internet, et soirées d'hiver ne sont plus comme les veillées du siècle dernier.
D'ailleurs, c'est sur Internet qu'il y a maintenant des clubs de rencontres, avec le fameux mythique, qui est mythique, le mot anglais to meet, rencontrer, qui permet de moderniser la vieille pratique des marieurs d'autrefois ou des marieuses.
Tout à fait. Mais effectivement, la grande hantise du célibat de campagne, c'est la solitude.
Au
19e siècle surtout. Alors que dans les villes, il y a des foyers de substitution, qui sont les cafés, qui sont les restaurants, qui sont les clubs. Il y a possibilité d'avoir des repas facilement, bien sûr le restaurant, mais aussi avec les boîtes de conserve, avec...
L'arrivée des boîtes de conserve est de cette époque d'ailleurs.
Et de cette époque, et je pense d'ailleurs que c'est toujours le fameux Molin qui a dit que la sardine à l'huile a été un grand désastre pour le mariage.
C'est sa fête aujourd'hui, monsieur Molin.
C'est sa fête. Là, j'ai dit je pense, je n'ai pas vérifié. Mais effectivement, on a accusé les boîtes de conserve. Et on pourrait ajouter, avec l'époque moderne, le réfrigérateur, le congélateur, le four à micro-ondes, tout ce qui facilite la tenue d'un ménage est favorable au célibat.
Redoutable ressort alors pour ceux qui ont l'égoïsme de ne pas se marier, c'est ça que vous nous dites?
Tout à fait. Mais il faut se rendre compte que dans tous les clichés du célibat qu'on véhicule depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a l'impossibilité de tenir un ménage. Parce que tenir un ménage, il faut une femme. Un homme est incapable de tenir un ménage, et dans tous les clichés de la fin du XVIIIe siècle, le célibataire, le vieux célibataire, se fait refaire par sa gouvernante qui prend la main sur la maison et qui finit par soit se faire épouser, soit faire épouser sa nièce, et qui finit par capter l'héritage. Ça, c'est la grande hantise du XVIIIe siècle. À partir du moment où le célibataire peut tenir son ménage tout seul, parce qu'il suffit de pousser sur un bouton ou d'ouvrir une boîte de conserve, eh bien, il y a une grande brèche qui s'ouvre et qui correspond effectivement, il n'y a pas que ça, mais qui correspond effectivement à cette explosion du célibat à la fin du XIXe siècle.
Dans le monde ouvrier, puisque nous venons aux villes, dans le monde ouvrier, il y a aussi une question du célibat, je ne dis pas un problème du célibat, une question du célibat dans la pratique et dans le regard des autres. Parce que comme toujours dans ce sujet, les faits et les représentations se mêlent intimement. C'est d'ailleurs ça qui le rend si intéressant.
Tout à fait. Et dans les enquêtes qu'on a faites en 1847-48 à Paris, on s'est rendu compte par exemple que dans tout l'est de la capitale, il y avait un célibat masculin important, et dans tout l'Ouest, un célibat féminin important. Pourquoi ? Parce que tout l'Est, c'était les quartiers ouvriers, et tout l'Ouest, les quartiers bourgeois, qui avaient besoin de bonnes à tout faire. La domesticité est à 70% féminine. Et donc, il y avait ce déséquilibre des célibataires hommes, des célibataires femmes, les deux ne se rencontrant pas. Alors pourquoi ? Le 19e siècle, effectivement, caractérisé par le développement des grandes villes et surtout des grandes villes industrielles, avec l'exode rural bien entendu, un déracinement des jeunes. Lorsque ces jeunes sont déracinés, ils n'ont pas, d'une part, la pression morale de la famille, donc le concubinage urbain se développe parce que on n'a plus cette pression sur le mariage.
Si vous considérez qu'un concubin est encore célibataire, c'est ça la difficulté des statistiques.
Alors ça renvoie effectivement à la définition du célibat. Pour le 19e siècle, oui, il entre dans les catégories de célibataires. Aujourd'hui, non. D'autre part, celui qui débarque dans la ville ne peut plus profiter de tout un système qui existe depuis des siècles de marieurs, d'intermédiaires qui s'occupaient des mariages. L'histoire de la cour amoureuse est inventée au 19e siècle. Alors, c'est l'époque effectivement où les agences matrimoniales et les petites annonces dans les journaux vont essayer de prendre le relais des marieurs, mais il y a un moment de flottement où les jeunes se retrouvent sans savoir comment faire la cour aux filles, parce qu'on n'apprend pas, parce que toute la tradition précédente était soit de rencontrer les filles dans les champs, dans les vendanges, etc., soit de passer par des marieurs
au bal.
Le bal est une invention du 19e aussi. Lorsque le jeune arrive en ville, le bal populaire commence à se développer pour prendre aussi le relais des marieurs de village. Il y a toute une infrastructure qui se met en place, comme les associations charitables qui dotent les filles pauvres. Il y a un moment de flottement dans la première moitié du 19e siècle où il y a un développement du célibat ouvrier et domestique et des solutions qui vont venir donc avec ces nouveaux moyens de rencontre.
On sait bien que les domestiques, qui viendront de plus en plus des bonnes à tout faire, mais plutôt à la fin du 19e siècle, la bourgeoisie ne peut plus s'offrir plusieurs domestiques, qu'on exige pratiquement des femmes de ménage, des femmes de chambre, le célibat. En tout cas, on peut le faire. Jusqu'en 1914, on a le droit, et ça surprendra beaucoup aujourd'hui, de renvoyer une domestique, une jeune femme, lorsqu'elle est enceinte, et même quand elle se marie.
Oui, le schéma traditionnel, c'est que les domestiques peuvent se marier, mais avec l'autorisation de leur maître, et le plus souvent à la fin de leur service. La domesticité est surtout un célibat, ce n'est pas un célibat définitif. Le modèle standard, c'est de prendre une jeune paysanne à 15 ans, et à 25 ans, on la renvoie, elle se marie, elle a fait son petit pécule, elle retourne dans son village se marier, et on reprend une petite bonne de 15 ans. Ça, c'était le schéma traditionnel 18e, 19e siècle.
C'est Bécassine, Madame de Grantaire.
C'est Bécassine. À partir du moment où la bonne à tout faire devient un métier, et on a ce qu'on appelle le vieux domestique qui blanchit sous le harnais, c'est le cliché, et à ce moment-là, ça devient un problème de célibat définitif. Le problème est un tout petit peu différent. À ce moment-là, on commence effectivement à accepter que les domestiques se marient parce que ça devient impossible d'avoir toute une population urbaine qui reste ad vitam aeternam, ou en tout cas jusqu'à la fin de ses jours, dans le célibat. Mais il faut toujours que ça passe par l'autorisation des patrons et en principe pas par une grossesse, parce que dès qu'il y a une grossesse, on soupçonne le mari ou le fils de la maison de l'avoir provoqué. Et là, il y a un scandale.
L'apparition du thème du type social de la fille mère. On peut évoquer aussi les vendeuses, les filles de brasserie, les garçons de café, tout l'univers de la restauration.
Alors, effectivement, le 19e siècle qui a, je dirais, presque une domesticité publique, puisque le développement des cafés, le développement des restaurants, puis des PTT, il y a aussi la demoiselle des PTT, tout cela, toute une série d'emplois de services qui naissent au 19e siècle, ont préféré des célibataires. C'était parfois obligatoire. Dans les grands magasins, certains contrats prévoyaient que une vendeuse qui se mariait était renvoyée. Ce n'était pas le cas pour les hommes. Là, c'est essentiellement les périodes d'indisponibilité en cas de grossesse qui faisaient peur.
Vous avez raison d'évoquer les PTT. D'ailleurs, on observe que dans la voix humaine de Jean Cocteau, spontanément, on appelle madame l'interlocutrice qui arrive par erreur, et mademoiselle, la demoiselle des PTT. C'est tout à fait significatif. Je voudrais que nous attardions un instant, Jean-Claude Bollens, sur les effets de la guerre, car c'est important, les effets de la guerre sur le célibat. Je vais vous faire écouter une archive tiré de radioscopie de Jacques Chancel le 12 novembre 1968. C'est le très célèbre avocat René Floriot qui est interrogé et qui explique pourquoi il a choisi très délibérément de rester célibataire. Écoutez.
Or, vous êtes célibataire et ça m'a toujours étonné.
Pas moi. Parce que j'étais bien décidé dès le début à le rester. Et je crois savoir pourquoi. Car je me suis moi aussi très longtemps posé la question. Il n'y a réellement pas de raison d'être célibataire alors que tous les autres sont mariés, comme dirait l'autre. Et je pense que c'est parce que j'ai commencé à être clair d'avouer à la signature du traité de paix. J'ai passé mon bachot le jour où on a signé la paix en 1919. Et je suis entré tout de suite chez un avoué pour apprendre mon métier clair d'avoué. Et on liquidait à cette époque le passif de la guerre. Et dans l'étude où j'étais, on faisait plusieurs nouveaux divorces par jour. Il est bien évident que tous les jeunes ménages de 1911, 12, 13, 14 avaient presque toujours mal résisté à une séparation de 4 ans ou 5 ans. De sorte que pendant des années, alors que j'avais 17 ans, je n'ai entendu que des maris malheureux ou des femmes éplorées, tant et si bien que j'étais à peu près persuadé, inconsciemment, qu'il n'y avait à Paris, pas d'autre ménage heureux que celui de mes parents. Et je crois que c'est ça l'explication de ce célibat. Et vous m'accorderez que maintenant, il est trop tard pour revoir la question.
Pas du tout. Vous y pensez quand même ?
Ah, pas du tout.
Mais dans le fond, c'est le divorce qui vous a retenu. Donc c'est une forme de lâcheté.
Ben, je vous demanderai de modérer vos expressions. Disons que c'est une forme de prudence.
Et la prudence est importante dans ces cas-là ?
Je crois, oui, je crois.
Mais ça vient du
demander à un certain nombre de me marier. Et vous verrez qu'ils reconnaîtront qu'ils ont manqué de prudence.
Cela vient du fait aussi, maître, que vous avez un goût pour l'indépendance extraordinaire.
Peut-être, oui, bien sûr. Il ne faut jamais chercher une seule cause dans les décisions d'un homme. Il y en a toujours plusieurs, dont certaines sont même inconnues de lui. Il est certain. Et puis, avec la profession qu'on est amené à faire, toujours en voyage, toujours parti, toujours en province pour plaider, il est évident que la vie conjugale serait réduite au minimum.
Puis il est peut-être difficile de trouver l'oiseau rare.
C'est sûrement très difficile.
Enfin, vous n'y pensez pas.
Non.
On retrouve les thèmes de l'ambivalence, en particulier l'opposition entre lâcheté et prudence. Est-ce que c'est de la prudence ou c'est de la lâcheté de ne pas se marier? Et puis l'idée que certains métiers se prêtent plus au mariage et d'autres sont plus favorables ou appellent davantage le célibat.
Oui, certains ont dit aussi que c'était du courage.
De se marier ou de rester célibataire?
De se marier. C'est à la fois très caractéristique et très atypique comme témoignage, très caractéristique de cette opposition entre mariage et célibat qui n'est plus du tout le vocabulaire actuel. Aujourd'hui, l'opposition, c'est entre couple et célibat.
Et la grande différence avec aujourd'hui. Voilà,
la grande différence.
L'opposition frappe plus que la permanence.
Oui. Et le fait qu'aujourd'hui, il s'agit de périodes de célibat et de périodes de vie de couple qui alternent, alors que là, on a un célibat définitif et permanent. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très caractéristique.
Mariage aussi, définitif et permanent, jusqu'à la mort d'un des deux, qui statistiquement, d'ailleurs, au XIXe siècle,
intervenait. À l'époque, oui. Aujourd'hui, avec le divorce par consentement mutuel, le mariage n'est plus assuré et le célibat n'est plus définitif. Il faut se rendre compte, si on arrive sur ce thème-là, que dans certains cas où on peut avoir une statistique à Florence au XIVe siècle, après 25 ans, il restait 3% de chance à une fille de se marier. Aujourd'hui, les chances décroissent à 50 ans pour une femme de se marier. Le célibat à 25 ans pour une jeune fille était quasiment définitif.
Donc on préférera, si vous permettez, Paris 2007 à Florence de votre
époque. Tout à fait. Donc le célibat aujourd'hui n'étant jamais définitif, on retrouve ce qu'on appelle le célibat par le divorce ou par le veuvage. On a toujours en tête la formation d'un nouveau couple un petit peu plus tard. Et on va profiter de sa liberté avant de reformer un nouveau couple. Mais ce témoignage qui disait dès le début, je me suis dit je suis célibataire, ce n'est pratiquement plus possible aujourd'hui. On a toujours l'ouverture du couple en perspective. Et le couple, avec le divorce par consentement mutuel, est fragilisé. Donc on n'a plus aucune certitude, ni dans le célibat, ni dans le couple. En revanche, ce qui est tout à fait atypique dans ce témoignage, c'est que dans les années 20, il y a plus eu une sorte de poussée du mariage juste après la guerre, dû au retard qui était pris dans les fiançailles, parce qu'on ne se marie pas pendant la guerre.
Au moment même où le jeune Floriot décide de ne pas se marier. Il y a une autre donnée qui est la donnée simplement démographique. Quand il y a eu 1,5 million de Français mâles en âge de se marier ou de procréer qui ont été tués, ça a créé un déséquilibre dramatique entre la population féminine et la population masculine, qui a été forcément lourde de conséquences pour notre sujet, c'est-à-dire les célibataires, Jean-Claude Bologne.
Oui, il y a eu un déséquilibre qui n'est pas aussi important qu'on l'a cru. Il y a eu des équilibres démographiques qui étaient dus aussi, et c'est le mérite de ce témoignage, qui étaient dus aussi à un certain nombre de divorces. Après la guerre, un certain nombre de jeunes qui avaient été séparés de leur femme ou de leur fiancée, qui avaient noué des relations sur le front avec des marraines de guerre ou avec les infirmières, sont rentrées au pays et ont rompu leur mariage. Mmh. Ça, c'est vrai. Et ça a remis des hommes sur le marché matrimonial. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font que ce déséquilibre qui est réel n'a pas était aussi fort qu'on l'a cru à l'époque. Il y a eu une grande campagne qui insistait sur la dépopulation de la France des années 1920-1930, qui était surtout due à la peur de voir l'ennemi, puisqu'on était toujours dans une pensée nationaliste, l'ennemi se repeupler tandis que la France se dépeuplerait.
Alors je voudrais maintenant que nous en venions à ce qu'on peut appeler les représentations et même les clichés du célibat au 19e siècle. En ouvrant cette partie de notre conversation avec une archive qui remonte à 1958, ressemblance et contraste, nous allons voir avec le 19e siècle, c'est la protestation d'un autre avocat, les avocats sont à la fête aujourd'hui, maître Stéphane Mecquet, qui a rejoint le club des solitaires, l'association des célibataires, et qui exprime son indignation quant à la manière dont la société traite ces célibataires-là.
Et j'ai ici devant le micro maître Stéphane Mecquet, qui je crois va être une des principales personnalités de cette association.
Je suis quant à moi d'autant plus heureux de me retrouver ici qu'il y a environ un an, j'avais, au cours d'une série d'articles, pris la défense des célibataires, et je l'avais pris cette défense d'un point de vue évidemment assez particulier et bien proche de celui de ma profession.
Technique ou humain ?
J'allais dire ni technique ni humain, ou les deux à la fois, dans la mesure où c'était le point de vue fiscal qui m'intéressait. L'avocat qui est seul n'a pas pour l'aider, comme beaucoup de mes confrères, le concours d'une charmante femme qui sera à la fois, j'allais dire, femme de ménage, femme de charge, secrétaire, collaboratrice, maîtresse, et femme dans toute la question du terme. Il aura par conséquent besoin de répartir ses charges, et de les répartir moyennant finances, sur 5 ou 6 personnes. Autrement dit, il se trouvera en position d'infériorité sur le plan financier, enfin sur le plan matériel, en position d'infériorité par rapport à ses confrères. Et qui plus est, à la fin de l'année, le percepteur lui demandera le double ou le triple des impôts dont sont frappés les gens qui sont mariés. Je pense que ça n'est pas sérieux, et je pense que ça n'est pas sérieux parce que les célibataires ont toujours apporté à la vie sociale, à la vie d'un pays, le plus grand tribut. Je veux dire par là que les plus grands hommes et les plus grandes femmes de tous les temps ont toujours été des célibataires. Si bien qu'en définitive, frapper les célibataires, c'est frapper le meilleur de la nation.
Je vous remercie de ce docte exposé, mon cher maître.
Après ce docte exposé, effectivement, Jean-Claude Bologne, on ne peut pas ne pas évoquer la citation de Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, au mot célibataire, il écrit « Tous égoïstes et débauchés, on devrait les imposer, se prépare une triste vieillesse ». C'est tout ce que refuse précisément maître Stéphane Mecquet.
L'impôt ou la taxe sur les célibataires, un très vieux serpent de mer, puisqu'il était déjà exigé par Platon, et en France, avec à part un très timide essai à la Révolution, elle existait durant la guerre, durant un régime plutôt de droite qui voulait promouvoir la famille. J'essaie d'être modéré dans mes expressions, mais pas dans ma pensée, et qui a fait une promotion de la famille tellement importante que, en 1946, à la Libération, on a entendu retentir le slogan à l'Assemblée nationale du haut des tribunes, la famille au placard.
En même temps, il y a une continuité avec la 4e, c'est l'époque où le général de Gaulle réclame de beaux bébés pour la France.
Alors après, il y a l'encouragement à la maternité qui est complémentaire, je dirais.
Et comme on ne prône pas les naissances hors mariage, en gros, on stigmatise indirectement les célibataires.
Oui, mais on encourage la maternité plutôt que de stigmatiser et d'imposer le célibat.
C'est positif au lieu d'être négatif.
C'est positif au lieu d'être négatif.
Ça paraît plus sage.
L'angle de vue n'est pas du tout le même. Et effectivement, cette taxe sur le célibat, ça n'a jamais marché parce qu'on a toujours le souvenir de la première taxe sur le célibat qui existait, qui était celle des lois d'Auguste en l'an 9 de notre ère, qui était un des grands scandales de la société romaine. Elle a duré pendant 3 siècles, puisqu'il était aboli par Constantin. Et c'était un sujet de scandale extraordinaire. C'était ce qu'on appelait... On a 2 secondes pour les évoquer.
Mais je vous en prie.
C'était des lois caducaires, donc, qui rendaient caduque l'héritage si on n'était pas marié. Ça fait que lorsqu'on avait une présomption d'héritage à venir, on se précipitait pour se marier, l'héritage arrivait et puis on divorçait.
Le divorce était beaucoup plus facile.
Le divorce était beaucoup plus facile
que dans la France de 1948.
Tout à fait. Et il y a eu toute une série de scandales comme ça qui ont fait que ces lois ont été de sinistre mémoire.
Vous pensez que c'est ce souvenir qui a inspiré aux législateurs de 1948, 49, 50 les décisions qu'ils ont prises?
En 1948-50, non. Durant tout l'ancien régime, oui. Parce que les premiers qui ont pâti de cette loi contre les célibataires, c'était les clercs qui quand même étaient célibataires. Lorsque Constantin a aboli cette loi, c'est effectivement après l'édit de tolérance et après sa pseudo-conversion au christianisme.
C'est Constantin qui introduit vraiment, qui commence, qui affirme, qui permet le triomphe du christianisme, comme nous savons.
Voilà,
début du IVe siècle.
Voilà. Et du coup, dans tout l'ancien régime chrétien, cet impôt sur les célibataires est resté une sorte d'impôt impérial romain qui risquait de frapper surtout les chrétiens.
Alors laissons, si vous voulez bien, Jean-Claude Boylan, cet aspect financier qui est important, mais revenons à un certain nombre de clichés sur ou de réalités sur les célibataires au XIXe siècle. Il y a la question du dandy, la question de l'écrivain. Je retrouve Gustave Flaubert, c'est le même qui disait que le célibat était, je cite, « une protestation du cerveau contre la matrice ».
Alors, là aussi, c'est une très vieille idée. Dès le XIXe siècle, on a remarqué que dans la mythologie gréco-romaine, chaque fois que vous avez des dieux de l'intelligence, ce sont des dieux célibataires. C'est Apollon, c'est Hermès.
Socrate était marié, mais ça n'était pas tellement content de Xantippe.
Les philosophes, effectivement, ont été largement célibataires. Je vous rappelle le fameux syllogisme de Bias. Vous allez vous marier, soit vous épousez une femme belle et vous serez trompé, soit vous épousez une femme laide et vous serez malheureux. Donc il vaut mieux ne pas se marier.
C'est effrayant. Heureusement, c'était dans l'Antiquité.
Une large partie, effectivement, de philosophes antiques célibataires. Il y a ces dieux célibataires qui sont les dieux des opérations intellectuelles. Et donc il y a eu effectivement cette vision dandy des choses qui rappelle que les productions de l'esprit sont incompatibles ou seraient incompatible, gardons le conditionnel, avec les productions corporelles. C'est une vieille démarche platonicienne. Il y a ceux qui engendrent dans le corps et ceux qui engendrent dans l'âme. Et...
On retrouve d'ailleurs cette idée chez Schopenhauer, le grand philosophe allemand de la première moitié du XIXe siècle, qui expliquait que le philosophe avait besoin de ne pas se marier. Les grands poètes, disait-il, tous mariés, ont tous été malheureux. Shakespeare porta même de doubles cornes. Il en résulte que les hommes sensés et prudents refusent de contracter ce pacte inégal. Fin de citation.
Voilà. Et là, c'est tout un cliché. Attendez, vous retrouvez exactement la même chose dans la correspondance d'Abélard et d'Héloïse. Héloïse dit à Abélard, me ne m'épouse pas parce que tu as ta carrière à faire. En gros, c'est ça.
J'ai l'honneur de ne pas te demander la main. Voilà. Ta main, comme dirait Brassens.
Et effectivement, depuis le christianisme platonicien, résumons cela comme ça, on a cette image du clerc qui n'est pas marié et qui véhicule toute la vie intellectuelle de la nation. Et dans toutes les attaques contre le célibat, on a toujours omis ceux qui apportaient autre chose que des enfants à la patrie. Donc le célibat des écrivains, des musiciens, des artistes, le célibat des magistrats, il y a ça aussi dans l'Ancien Régime, le célibat des soldats, là ils apportent leur vie à la patrie, était beaucoup mieux toléré. Le XIXe siècle a totalement embrayé sur cette idée, parfois même de façon un peu caricaturale. Je rappelle que Lombroso, le grand criminaliste italien qui nous devons les empreintes digitales, soutenait que le génie était nécessairement stérile et que les hommes de génie ne pouvaient pas faire de bons maris.
Et c'est ce que disait aussi Nietzsche, puisqu'il disait « aut liberi, aut libri », ou des enfants ou des livres.
Voilà.
C'est la même idée.
C'est toujours la même idée qui est passée, qui était véhiculée par une série de lieux communs et qui en fait repose en partie sur des considérations sociales. D'une part, l'artiste...
Vous ne démentez pas Nietzsche, je comprends bien.
statistiquement, au XIXe siècle, non. Il y a un taux de célibat chez les artistes qui semble plus important que dans l'ensemble de la population.
Goncourt, Flaubert, Maupassant, Huysmans, etc.
Ce que je démentirai toujours dans tous ces clichés que nous allons voir, c'est la généralisation. Mais statistiquement, il repose sur une base. Et il y a aussi une question historique, puisque sous l'Ancien Régime, beaucoup d'artistes, musiciens notamment, étaient des clercs qui avaient des bénéfices dans des églises, qui tenaient des orgues dans une église.
Oui, mais ça c'est plus tellement vrai à notre époque du 19e siècle.
Il y a toujours ce souvenir au 19e siècle. Schopenhauer, quand il écrit, il a derrière lui tous les exemples du 18e et du 17e siècle, pas les exemples de son temps. Tous ces lieux communs...
Un effet de retard des lieux communs.
Voilà, tous ces lieux communs sont véhiculés à cause de réalités anciennes.
Et alors on est toujours très proche, il y a toujours une proximité entre le dandy triomphant, l'homme libre, l'écrivain, et puis sa dégradation en vieux garçon. Écoutez cette chanson de février 1958 qui s'appelle « La complainte du célibataire ». Elle est chantée au cabaret « La Colombe » par Colette Chevreau. Et vous verrez qu'on trouve tout à fait l'ambiguïté entre cette notion de liberté et puis l'espèce de tendresse un peu apitoyée qu'on éprouve envers le célibataire.
Invitez les célibataires, invitez-les à la maison, à boire un coup, à prendre un verre, faites une bonne action. C'est très solitaire, c'est très solitaire, c'est très solitaire. C'est très solitaire, c'est très solitaire, un célibataire. C'est très solitaire, c'est très solitaire, un célibataire. Il est l'unique, le triomphal, celui qu'aucune femme n'a pu faire monter sur le char nuptial, le vierge, le pur, le jamais eu. Les familles se le disputent, il est à moi, il est à nous. Les salons sont des rings où luttent les fillettes en mal d'époux. Invitez les célibataires, qu'il est beau le célibataire, qu'il est grand, qu'il est désinvolte, on sent qu'à sa vue les mères se rechargent à 100 000 volts. Elles se disent, ces femmes cornéliennes, comme il ferait bien dans mes bras. Mais pensons d'abord à Lucienne, qui n'a pas d'époux à son choix. Invitez les célibataires. La fillette voit une tache sur le veston du célibataire, elle voudrait mourir à la tâche, le récurer la vie entière. Elle l'imagine déjà malade à son chevet la nuit le jour, lui versant à large rasade la bonne tisane de l'amour. Et le célibataire, rentrant chez lui le célibataire, après ses journées de gala, se prend pour le nombril de la terre, pour Cupidon, pour Attila. Mais sa solitude lui fait peur, et quand il entend « Tu viens, petit », le célibataire, pour une heure, épouse une belle de nuit. Invitez les célibataires, invitez-les à la maison, à boire un coup, à prendre un verre, faites une bonne action. C'est très solitaire, c'est très solitaire, c'est très solitaire. C'est très solitaire, c'est très solitaire, un célibataire. C'est très solitaire, c'est très solitaire, un célibataire.
Vous avez promis, Jean-Claude Bologne, qu'on retrouverait une tache sur un veston.
Alors, on la retrouvera à toutes les époques. C'est un vieux lieu commun du célibat. C'est très amusant. Cette chanson aurait pu être chantée telle qu'elle par Yvette Guilbert 50 ans plus tôt. Ce célibataire que l'on croit pur, qui... On ne conçoit pas qu'il y ait des liaisons hors mariage, à part le bordel. En revanche, on imagine bien Lucienne qui est mal mariée, on pourrait lui garder un petit morceau du célibataire. Là, c'est le célibataire que l'on convoite parce qu'on n'imagine pas que le célibat puisse exister. Donc, un célibataire doit nécessairement chercher une épouse et on va se charger d'en trouver une. Et ce sont les filles qui cherchent le mariage, ça aussi c'est un très vieux cliché. Et les mères qui cherchent à placer leur fils, c'est aussi un très vieux cliché. En revanche, il y a une accumulation de clichés, je dirais, qui en général prennent une génération. Le célibataire recherché est le célibataire de 20 ans. À 25-30 ans, c'est le libertin. À 35-40 ans, ça commence déjà à devenir le vieux beau. À 50 ans, là, c'est le maniaque. À 60 ans, c'est le désespéré et le candidat au suicide. Donc, il y a cette évolution du dandy qui est nécessairement jeune, c'est le célibataire heureux, vers le vieux cochon qui va chercher les prostituées ou qui couche avec sa bonne. Et puis, le vieux garçon qui se laisse refaire par son entourage et qui vieillit seul et désespéré.
Comme les personnages de Monterland que vous évoquez, c'est le premier roman, à vrai dire, réel de Monterland dans les années 30.
Oui, tout à fait. Ce sont les personnages de Monterland qui n'ont pas pris une ride depuis le cousin Ponce ou la cousine Bette de Balzac. Le cousin Ponce, le vieil Élie, le style et la conception sont totalement différents. Mais le personnage du vieux garçon n'a pas pris une ride entre les deux. Il a toujours une mode de retard. Le cousin Ponce, Balzac l'appelle un personnage empire, comme on dit un meuble empire, parce qu'il est habillé comme dans sa jeunesse. Et le vieil Élie chez Monterland garde, si je me souviens bien, c'est sa casquette de 1880 quand il était jeune, il a toujours une mode de retard. Et là aussi, c'est un cliché du vieux garçon qui s'est totalement renversé, puisqu'aujourd'hui, le célibataire a toujours une mode d'avance plutôt qu'une mode de retard. Dans le vieux garçon, c'est cela que l'on craint. C'est celui qui s'est arrêté dans le temps, qui ne songe plus à une vie de couple. Alors qu'aujourd'hui, le célibataire, statistiquement, c'est jusqu'à 50 ans, mais c'est souvent même au-delà, le célibataire se dit presque toujours, il y a une possibilité un jour que quelque chose revienne. Donc là, il y a un cliché qui s'est vraiment inversé dans l'image du célibataire.
Avec cette ambivalence, vous parliez du vieux cochon, mais il y a aussi l'impuissant ou celui qui n'a pas connu la femme, comme Léon de Cantré. Oui. Au niveau de Monterland, c'est clair. Mais on trouve aussi au niveau plus mineur, dans l'admirable Géranium ovipare de Georges Fourest, ce personnage qui est mort vierge, je cite, en ayant ignoré l'amour de sa concierge.
Tout à fait.
Je ne connais pas
celui-là. Il y a cette fourche entre le vieux beau qui continue à courtiser comme s'il avait 20 ans et le vieux garçon puceau, timide, timoré et qui se laisse refaire par tout le monde, tout en étant que je ne sais plus lequel des deux célibataires chez Monterland est obsédé par les revues cochonnes.
C'est Léon de Cantré, si j'ai bonne mémoire, qui était puceau. Ça n'empêche pas d'être obsédé par les revues cochonnes. Je m'en remets à votre compétence.
Il y en a un des deux, je pense que c'est lui.
Alors, c'est idée toujours de moralisme, même le grand Durkheim, le grand sociologue, a un regard moraliste sur le célibat, puisqu'il dit que la classe des célibataires, je cite, se trouve comprendre tout le déchet humain du pays. C'est là que se rencontrent les infirmes, les incurables, les gens trop pauvres ou notoirement tarés. Monterland parle de vieux débris à propos de ces célibataires.
Là, il y a un problème qui est plus grave et plus préoccupant. Lorsqu'on parle de célibat, il y a 1000 causes de célibat et un petit peu moins de causes de mariage. Il y a le célibat imposé. Lorsqu'on dit, c'est un des vieux clichés aussi, le célibataire meurt plus jeune que l'homme marié.
Cliché ou c'est vrai, vous avez bien des statistiques?
Alors, il y a des statistiques qui...
Il faut que nous en avertissions nos auditeurs.
Il y a des statistiques qui effectivement, à certaines époques, ont montré, semblent avoir montré cela. Les dernières ont paru l'année où j'ai publié l'histoire du célibat, donc en 2003-2004. Et ça semble vrai, mais pourquoi? Effectivement, les gens qui sont un peu maladifs, qui sont un peu plus faibles, se marient moins facilement que les beaux mâles virils. Donc, effectivement, il y a des questions qui sont graves et qui sont réelles et dont on ne parle jamais, qui font que une mortalité qui n'est pas due au célibat, mais qui est due à la maladie, peut fausser les statistiques du célibat. Durkheim parle d'un suicide qui serait presque lié au célibat, en disant qu'il y a contradiction au sein du célibataire.
Chagrin ultime. Désespoir ultime.
Oui, entre l'égoïsme, qui est la caractéristique du célibataire, pour Durkheim comme pour toute son époque, et l'absence de descendance qui fait que la vie va s'arrêter avec lui, et donc cette course vers le néant, tout en ayant un comportement égoïste, est contradictoire et mène systématiquement au suicide. Il y a effectivement des statistiques qui montrent que le taux de suicide est plus important chez les célibataires. Mais pourquoi ? D'abord parce que peut-être qu'il n'y a personne pour les retenir. D'autre part parce que ceux qui ont une tendance au suicide sont nettement moins tirés par le mariage.
Et on ne sait jamais ce qui est cause et conséquence.
On ne sait jamais ce qui est cause et conséquence. On a des statistiques et puis après il faut interpréter ces statistiques. Et ce que je conteste effectivement dans l'analyse de Durkheim, qui est très intelligente sur certains points, c'est la généralisation, c'est pas le constat.
Parce que c'est son livre, et ce, je le rappelle, est un livre consacré précisément au suicide. Nous parlons du vieux garçon, il faut dire un mot de la vieille fille. Dans un livre vraiment à nos yeux inénarrable de Quayac, qui remonte à 1841, qui s'appelle « La physiologie du célibataire et de la vieille fille », il décrit la vieille fille comme ça, avec la présence à ses côtés obligatoire d'un chien. Voilà le portrait robot de la vieille fille, 1841. Individu du sexe féminin qui a des moustaches, une toilette ridicule, un carlin sur ses genoux, qui prend du tabac à plein nez, qui médit sans cesse, surtout des jeunes femmes, qui a l'air de s'ennuyer et d'ennuyer les autres, qui repousse les enfants et les gronde sans cesse, qui est sec, roide, compassé, exigu et bâti en angle de rue. Ça, c'est le côté vraiment négatif du regard. Et puis, il y a un côté beaucoup plus attendrissant, c'est celui qui ressort de cette chanson de Damia, que j'ai réservé pour vous. Je crois que vous aimez beaucoup Damia.
Ah, c'est une passion de jeunesse. Ça fait 30 ans que je suis amoureux de Damia.
Eh bien voilà, je ne sais pas si elle était célibataire. En tout cas, sa chanson s'appelle « Bonjour mon chien » et elle remonte au milieu des années 30.
Par ces longues soirées d'hiver, connaissez-vous l'âpre détresse ? De rentrer seul au nid des ailes, d'où l'on a tendu le tendresse. Voici ma maison, voici la porte, par où l'infidèle s'est enfui. Je n'ai plus d'amour, mais qu'importe, si tu me restes mon ami. Bonjour mon chien, je n'ai plus que toi sur la terre, mais tes beaux yeux pleins de mystère me comprennent si bien. Bonjour mon chien, tu me fais fête, me cajole, ton amitié n'est pas frivole, quand tu lèches mes mains. Bonjour mon chien, je devrais t'aimer plus que l'autre qui prit mon cœur pour un joujou. Quant au bonheur qui fut le nôtre, il est parti je ne sais où. Bonjour mon chien, tu es mon ami, ma richesse, viens donc chercher une caresse. Bonjour mon chien, accablé par tant de douleurs, j'allais sombrer dans la démence, car il avait pris tout mon cœur, me payant par l'indifférence. Je voulais partir, briser le charme, je ne serais plus revenu. Mais semblant dit, sèche tes larmes, mon bon ami m'a retenu. Bonjour mon chien, je n'ai plus que toi sur la terre, mais tes beaux yeux pleins de mystère me comprennent si bien. Bonjour mon chien, tu me fais fête, me cajole, ton amitié n'est pas frivole, quand tu lèches mes mains. Bonjour mon chien, je devrais t'aimer plus que l'autre pris mon cœur pour un joujou. Quant au bonheur qui fut le nôtre, il est parti je ne sais où. Bonjour mon chien, tu es mon ami, ma richesse. Viens donc chercher une caresse. Bonjour mon chien.
Je vous ai trouvé très touché là en écoutant cette chanson, Jean-Claude Bologne.
Absolument, c'est superbe. Et puis, elle résume bien ce qu'on attend, puisque nous sommes dans les clichés, de la bonne vieille fille. Pour qu'une vieille fille ne réponde pas au portrait de Nekouayak que vous avez lu tout à l'heure, il faut, un, qu'elle ait eu un amour malheureux, donc ce n'est pas elle qui a choisi le célibat, c'est un célibat qui est imposé. Et deux, qu'elle puisse faire montre de ses sentiments féminins et essentiellement de ses sentiments maternels. Et donc reporter toute cette tendresse qui est caractéristique de la femme dans les vieux clichés sur un animal. On parle rarement des vieux célibataires avec un animal. L'exception qui confirme la règle est le vieil Élie qui a un chat. Et si vous vous souvenez...
Toujours dans Monterland.
Toujours dans Monterland. Et qui a l'art de caresser le chat sous l'anus. Il y a un côté très sexuel dans les rapports du vieil Élie avec son chat. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une vieille fille, et son animal de compagnie. Donc il faut qu'elle puisse reporter toute sa tendresse maternelle sur un animal ou dans son métier. Parce qu'il y a aussi l'image de l'institutrice, de l'infirmière, de l'assistante sociale.
La vieille fille est sauvée en fait dans ce 19e siècle lorsqu'elle se dévoue à un être cher. Ça peut être un animal. Et c'est le thème d'ailleurs de la sœur, par exemple la sœur de Renan, ma sœur Henriette,
tout
qui se
fait.
Dévoue entièrement à la carrière d'Ernest Renan. Il y a une citation d'ailleurs de René Bazin, qui est l'auteur fétiche des milieux catholiques au début du XXe siècle, et qui dit « Qu'une sœur sacrifie sa vie de femme pour accompagner dans l'ombre le célibat d'un frère disgracié, ou parce qu'il a choisi la prêtrise, ou encore seconde l'épouse légitime en prolongeant la mère disparue, est un schéma de vie que l'on connaît. Le dévouement de cette vierge perpétuelle prend alors le visage farouche d'une électre des foyers. »
Eh oui, l'image qui, pour nous, à la Société des gens de lettres, est précieuse du couple Délie.
Délie, oui. Un des grands auteurs de best-sellers. Alors, qui est, voilà. Pourquoi est-ce que vous citez Délie, rappelez-nous?
Délie est en fait le pseudonyme de Marie et Jean, Petit-Jean de la Rosière, un couple de frères et sœurs. Jean était
disgracié,
handicapé,
en fait.
Sa sœur s'est occupée de lui toute sa vie. Ils sont nés et morts à 2 ans de distance. Et ils ont passé toute leur vie dans leur grand appartement à Versailles à écrire des romans à l'autre rose, des romans de gare. Des centaines de best-sellers. Et à la fin de leur vie, ils étaient sans enfants, ils ont légué toute leur fortune à la Société des gens de lettres pour les auteurs en difficulté. Et 60 ans plus tard, nous vivons toujours sur l'héritage de Délie qui entretient le fonds social de la Société des gens de lettres.
L'héritage du célibat au profit de la Société des gens de lettres, voilà, qui méritait d'être salué, effectivement. Alors, laissant de côté la Société des gens de lettres, je crois qu'il faut insister sur le contraste qu'il peut y avoir aujourd'hui du regard entre la femme célibataire contemporaine et puis cette attitude envers la vieille fille au 19e siècle, un mélange de compassion, d'esprit de supériorité, parfois d'un peu de mépris et sûrement de condescendance.
Oui, et là je voudrais pour toute une série de raisons concomitantes, d'une part l'accession des femmes à des métiers valorisants et au haut de l'échelle sociale.
Progrès de la parité évidemment.
Progrès de la parité, or statistiquement on s'est rendu compte, et pour des raisons psychologiques assez... Hélas, c'est évident que plus on s'élevait dans l'échelle sociale, plus il y a de femmes célibataires et plus il y a d'hommes mariés. Et plus on descend dans l'échelle sociale, plus il y a de femmes mariées et d'hommes célibataires. Ce qui veut dire que l'image de la femme célibataire aujourd'hui, depuis je dirais une 30-40 ans, est plutôt l'image de la jeune cadre dynamique, de la chef d'entreprise, de la femme, de la femme avocat, médecin, qui se consacre à leur carrière plus qu'à leur maternité. Et on échappe un peu à l'image misérabiliste du siècle dernier. Et l'autre grande révolution, c'est la pilule. Ce qu'on craint dans la femme célibataire qui a des relations sexuelles, c'est des enfants, hors mariage. Aujourd'hui, avec une contraception efficace et avec le fait que la fille mère n'a plus l'opprobre qu'elle connaissait il y a 100 ans, la femme célibataire n'est plus nécessairement une laissée pour compte qui ne peut pas avoir de vie sexuelle et sentimentale. La vie sexuelle de la femme célibataire était un tabou total jusqu'après la dernière guerre, 1945. C'est un tabou total. La femme qui avouait ses relations sexuelles hors mariage était nécessairement une garce. Et c'est ça qui a changé aussi l'image de la femme célibataire. Désormais, elle peut avoir une vie de femme épanouie et elle peut avoir un métier valorisant.
Eh bien, ça me donne le goût de vous faire entendre pour finir une chanson beaucoup plus optimiste que celle qui mettait en scène la solitude de la vieille fille dans votre 19e siècle. C'est une chanson qui se situe bien à la charnière de ces deux époques, une chanson de 1966, une chanson de Juliette Gréco, Chambre 33. Écoutez.
J'aurais pu faire la Porte Saint-Denis, la Madeleine, la rue de Paradis. J'aurais pu faire comme ma frangine, me saouler, prendre de la cocaïne. J'aurais pu devenir plumardière, petite main grande, cocotte ou rombière. Et des femmes qui font n'importe quoi, qui font ou qui font rien, ben moi. Je vis seule, toute seule, j'aime mieux ça. Sans un chien, sans mari, sans un chat, sans souteneur, chambre 33, au troisième rue, j'ai le cœur. Si j'ai un genre particulier, des bas noirs, un petit canotier, c'est pas pour exciter les foules. Je n'ai rien d'une bourgeoise ni d'une poule. Et j'aime bien qu'on se retourne sur moi, qu'on me suive, qu'on me parle à mi-voix. Et quand on me dit où perchez-vous, je réponds de mon air un peu foufou. Moi je vis seule, toute seule, j'aime mieux ça. Sans un chien, sans mari, sans un chat, sans souteneur, chambre 33, au troisième rue, j'ai le cœur. Pourquoi seule, je sais plus, et j'attends, et je pense en boutonnant mes gants, qu'un jour je me réveillerai peut-être près d'un type qu'aura dans les 2 mètres. Chapeau, j'ai dus une gueule de raie, des bas cyclistes sur la cheminée, et pour le garder près de moi longtemps, je déchirerai tous ses vêtements. Mais en attendant, je vis seule, toute seule, j'aime mieux ça. Sans un chien, sans mari, sans un chat, sans souteneur, chambre 33, au troisième, rue Gilcoeur.
Merci beaucoup Jean-Claude Bollone, nous en tiendrons là. Nous en tiendrons là. Le livre sur lequel nous avons fondé cette émission s'appelle « Histoire du célibat et des célibataires ». La première édition a été parue en 2004. Chez Fayard. Il vient d'être réédité dans la collection Pluriel il y a peu de temps. J'ajoute 2 autres titres qui marquent la permanence de vos curiosités. L'histoire du mariage en Occident, qu'on trouve également dans la collection Pluriel, 2005. Et puis une très intéressante histoire de la pudeur, 1997. Je ne sais pas si la pudeur a marqué notre conversation. Quoi qu'il en soit, c'est un très juste et très intéressant sujet de curiosité historique. Vous pouvez retrouver ces informations ainsi que les références et documents sonores utilisés au cours de cette émission sur le site internet de France Culture, à la rubrique naturellement Concordance des temps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter, je le rappelle, ou télécharger cette émission. La semaine prochaine, vous savez, la fortune qu'a actuellement l'expression de pipolisation, je ne sais pas s'il faut l'agréer, la pipolisation des hommes politiques. Autrement dit, la fin de la séparation radicale entre leur vie privée et leur vie publique. Quand cette évolution a-t-elle commencé et où en est-on aujourd'hui par comparaison? Nous parlerons de ça avec Christian Delporte. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau et de Meryl Moneghetti, avec Patrick Molinier, Noélie Pellegrin, Nathalie Rouvillain et pour les Archivinas, Florence D'Artois.